Dans un souci de compréhension et de lisibilité de l'interview, nous vous précisons que celle-ci a été enregistrée le 27 février 2024.
Alors, le wokisme ramène les différences en mettant un accent sur les différences et en prétendant qu'il y aurait différents degrés de souffrance et que certaines personnes seraient plus méritantes dans la souffrance que d'autres. Alors, à cause de ça, on va faire des nouvelles barrières. Oui, il va y avoir des dérapages extrêmement troublants.
Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des éclaireurs du numérique. Avec, d'habitude, il y a Bertrand Lenotre qui prend la parole à ma place, mais cette fois-ci, il n'est pas là. Donc, je suis Damien Douani et j'ai à mes côtés l'inénarrable, bien sûr, Fabrice Eppelbaum. Bonjour Fabrice.
Salut.
Et nous avons un invité, comme ça nous arrive très souvent, et il se trouve qu'aujourd'hui c'est une invitée qui nous parle de l'autre côté de la grande mare, comme on dit, autrement dit du Québec, c'est Michel Blanc. Bonjour Michel.
Ah ben bonjour.
Alors Michel, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas, alors on va pas se mentir, hein, les vieux de la vieille comme nous te connaissent, peut-être que ceux qui sont plus jeunes ne te connaissent pas, je ne sais pas, mais je vais te resituer en deux mots. Est-ce que si je dis que tu es une numéricienne, quelqu'un qui connaît particulièrement le monde du numérique, du web social, qui est une conférencière et une blogueuse québécoise, est-ce que je t'ai bien résumé ou tu rajouterais quelque chose?
Bon, on pourrait, pour ceux qui vont trouver que j'ai une grosse voix, on pourrait peut-être spécifier que je suis aussi une femme transsexuelle, que j'ai changé de sexe il y a maintenant une quinzaine d'années. J'ai fait une maîtrise scientifique en commerce électronique à HEC Montréal, où maintenant je suis chargé de cours. Et bref, oui, comme tu le dis, ça fait 20 ans que je bourlingue pour faire plaisir aux copains français, expression qu'on n'utilise pas au Québec, mais que, je suis spécialiste des médias sociaux, du commerce en ligne, de l'économie numérique et de diverses questions touchant le web.
Et tu es une voix qui, effectivement, est écoutée au Québec, puisqu'on régulièrement, les médias viennent te solliciter pour avoir ton avis sur le sujet. Et bien justement, nous, c'est ce qu'on a fait, on a tapé à ta porte, et on s'est dit que c'était cool de discuter avec toi de l'intelligence artificielle. Et alors, le sujet initial, c'était, on voulait parler d'intelligence artificielle, le soft power. Quand on a parlé, tu m'as dit soft power, mais ça veut dire quoi? Alors, on pourrait parler d'influence douce, de propagande, mais dans tous les cas de figure, de l'impact de l'IA aujourd'hui sur la société. On l'a vu il y a quelques jours, Gemini a complètement pété les plombs. Donc le Gemini, l'IA de Google, qui s'est mis à d'un seul coup réécrire l'histoire, faire du révisionnisme en inventant des pères fondateurs de la nation américaine qui n'existaient pas ou qui étaient indiens éventuellement, ou bien encore être incapable de répondre à une demande qui était faite parce que c'était incorrect. De la part vu comme incorrect de la part de cette IA qui avait été programmée manifestement comme telle, donc d'aucuns ont dit que c'était une IA woke. Il y a d'autres sujets, bien sûr, pas que sur ce sujet-là, mais autour de la création, autour du marketing, toutes les questions. Moi qui suis enseignant aussi, on me dit régulièrement, mais alors on va tous mourir, c'est fini. On entend un Sam Altman qui nous dit que demain on aura tous un revenu minimum et l'IA fera le travail pour nous. Bref, du côté du Québec, du Canada, du continent américain, Michel, ça donne quoi la perception de l'IA aujourd'hui?
Oh ben, évidemment, ici, on a Joshua Bengio, qui est un des grands spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle, qui dit que c'est extrêmement dangereux. Et on a quand même beaucoup de centres de recherche en intelligence artificielle au Québec. Le Québec est quand même assez avancé sur ce sujet-là. Moi, humblement, je ne suis pas si avancé que ça. À tel point que je n'utilisais pas l'intelligence artificielle. Je m'intéressais au sujet très, très, très vaguement jusqu'à la semaine dernière où je suis allé faire un petit tour aux États-Unis, à San Diego, au Social Media Marketing World plusieurs des conférences portaient justement sur l'intelligence artificielle et le marketing. Alors, je suis revenu, excusez l'expression, flabbergasté. Des apprentissages que j'ai fait là-bas, parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle va bouleverser le marketing, mais va aussi bouleverser tous les travailleurs du savoir, quels qu'ils soient. Par contre, tout le monde ne perdra pas leur emploi. Ça, c'est peut-être un faux débat. Et pourquoi ils ne perdront pas leur emploi? On disait la même chose quand l'informatique est arrivée, que tout le monde allait perdre leur emploi, et on s'est rendu compte que ça prenait beaucoup plus de gens pour faire fonctionner cette informatique-là que les emplois qui étaient perdus, et que c'était des emplois extrêmement payants. Mon sentiment est que ça risque d'être la même chose avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, l'intelligence artificielle ne peut pas prendre de décision et ne devrait pas prendre de décision et n'a pas de sens critique. Alors, l'intelligence artificielle est très, très bonne pour faire certaines tâches cléricales, mieux que l'humain. Et c'est assez impressionnant. Des capacités de l'intelligence artificielle, notamment à ce qui a trait au marketing de contenu, mais aussi au marketing plus traditionnel, marketing numérique aussi. Mais bon, vendredi, comme tu l'as annoncé, il y a eu une débandade magistrale, ce qui fait que déjà Google, hier, perdait plusieurs milliards en bourse. Dégringolade surprenante et arrêtait la disponibilité de son outil Gemini qui, comme tu l'as annoncé, nous a sauté en pleine face avec des comportements clairement woke qui sont très, très discriminatoires envers les personnes de race blanche. Quand on demande de dessiner un pape et que le pape est noir ou que le pape est une asiatique, au point de vue des faits historiques, on est assez loin. Quand on demande à Gemini de nous faire des Vikings qui sont de descendance africaine ou asiatique, on est encore assez loin de la réalité historique. Et comme tu l'as annoncé, quand on demandait qui est George Washington, qui s'avère être aussi encore un noir, il y a quand même un petit problème. Ça, c'était vrai pour la portion texte à image de Gemini, mais même la portion texte à texte était déficiente. Tu sais, si on demandait quelle est la différence entre Barack Obama et Hitler, là on disait que c'était impossible de répondre, que c'était très délicat, etc. Mais si on demandait la différence entre Hitler et Elon Musk, ah là tout d'un coup on avait des choses à dire. Ils ont bien fait de tirer l'électricité de la machine et de la couper le temps qu'ils se réajustent. On s'est aussi rendu compte que, parce qu'évidemment, ça a comme mis la puce à l'oreille à bien des gens, alors on s'est mis à tester d'autres choses. Par exemple, aux États-Unis, on a testé Google Images, qui est encore en ligne, et on a demandé à Google Images de nous montrer... des couples hétérosexuels et très abondamment, on présentait des couples multiraciaux et même des couples homosexuels pour présenter que les couples homosexuels sont plus stables que les couples hétérosexuels. Pourtant, quand on demandait de présenter des couples blancs, des couples noirs, on n'avait que des noirs, et si on demandait des couples blancs, encore une fois, il y avait à la fois des blancs et des afro-descendants. Donc, c'est une tentative de faire disparaître les Blancs. L'esprit woke hein, au Québec.
C'est un sabotage total parce que là, c'est non seulement bon, l'IA Gemini, effectivement, ils ont fait une sortie de route qui va leur coûter des milliards et des milliards. Mais là, on parle des résultats du moteur de recherche. Donc, c'est le produit phare de Google. C'est le produit que tout le monde sur la planète utilise pour accéder à de l'information. Et on est en train de s'apercevoir que cette IA impacte aussi le moteur de recherche dans un esprit woke. C'est complètement
tout à fait. Tout à fait. Puis bon, on ne se cachera pas. On a vu l'hiver dernier avec les Twitter Files qui ont été mis en ligne après que Elon Musk a fait l'acquisition de Twitter, que les services secrets... sont abondamment présents et chez Google, et chez Facebook, et chez Twitter, et qui sont en grande majorité les responsables de la gestion des contenus. Donc, c'est troublant. Puis on se rend compte, évidemment, quand on cherchait des informations, mais tu sais, c'est pas rien que Google qui est comme ça, le Google, Facebook, LinkedIn, si on cherchait des informations ou si on contestait les informations durant la COVID, on avait des sanctions qui allaient jusqu'au bannissement ou à la démonétisation des contenus sur à peu près toutes les plateformes numériques. Donc, il y a carrément une collaboration joyeuse entre les technos et les démocrates américains au détriment des républicains et au détriment de la liberté de parole, ce qui est quand même scandaleux.
Et ce qui est surtout complètement dingue, venant de la gauche vis-à-vis de la droite. Enfin, on se serait attendu, si on nous avait raconté ça il y a 15 ans, on aurait rigolé, ça paraissait invraisemblable. La liberté d'expression était plutôt menacée par les méchants d'extrême droite à l'époque.
Tout à fait. Puis encore là, il y a comme un renversement qui est, à plusieurs égards qui est troublant. On va regarder la guerre en Ukraine. C'est la gauche qui pousse pour... votre président a même dit qu'il était prêt à envoyer des soldats sur le terrain.
Il n'est pas de gauche, hein, il y a un malentendu. Hein,
je sais, mais ici, c'est beaucoup la gauche qui pousse pour la guerre en Ukraine. Pourtant, si on remonte, tu sais, moi, je suis quand même vieille, là, et si on remonte dans les années 60 et 70, c'était la gauche qui se battait contre la guerre au Vietnam, et ouais. C'est la gauche qui était anti-guerre. Et là, la gauche, allègrement, vive la guerre, vive l'immigration massive, vive les changements structuraux, civilisationnels, vive toutes les religions sauf la nôtre.
Pour le coup, notre gauche à nous est plutôt anti-guerre. Mais évidemment, le fait qu'elle soit à 2 heures d'avion change beaucoup les choses.
Mais justement, pour Michel, pour revenir sur ce que tu disais, prenons l'exemple de San René, par exemple, sur ce que tu décrivais abondamment sur le dérapage, typiquement, qui n'est pas un dérapage, mais qui a montré en fait qu'il y avait une programmation de l'IA, notamment Google Images, etc., de l'algo. Pour nous, donc, puisque ce podcast est principalement écouté en France, toi, vu de ta fenêtre québécoise, canadienne, sur le continent américain, est-ce que c'est quelque chose qui te paraît surprenant ou absolument pas, finalement dans la logique des choses?
Je suis tombé de ma chaise, mais je n'étais pas outrageusement surprise. C'est sûr que le wokisme ici, évidemment, étant les voisins des États-Unis, ça nous a frappé beaucoup plus rapidement que ça a pu frapper en Europe. Et à certains égards, on peut dire que le wokisme est maintenant institutionnalisé. Hein, l'EDI, équité, diversité, inclusion, ça fait partie des cursus des grandes entreprises, des grandes écoles. Puis là, tout le monde veut être plus blanc que blanc et laver plus propre que propre. Pourtant, il y a des gens qui commencent évidemment à réagir et à dire que ça n'a pas de bon sens et que ici, on a un terme, on appelle ça du racialisme. Je pensais qu'on était rendu à une époque où les différences n'avaient plus d'importance. Alors, le wokisme ramène les différences en mettant un accent sur les différences et en prétendant qu'il y aurait différents degrés de souffrance et que certaines personnes seraient plus méritantes dans la souffrance que d'autres. Alors, à cause de ça, on va faire des nouvelles barrières et, tu sais, je veux dire, bon, c'est rendu qu'on fait des activités pour Noirs seulement ou pour femmes musulmanes seulement ou les non-femmes musulmanes ou les non-noirs ne peuvent participer, c'est une discrimination inversée. Et là, ultimement, ça s'est révélé vendredi dernier de manière spectaculaire avec Gemini. Mais de façon insidieuse, c'est déjà très, très, très présent et troublant. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que vous autres en France, vous avez une culture du débat. Au Québec, là, je fais une différence entre le Québec et l'Amérique, là. Mais au Québec, on n'a pas vraiment cette culture du débat. On est plutôt une société consensuelle. Alors, une fois que les choses sont dites, on n'aime pas la chicane. Alors, tout le monde est d'accord et tout le monde va dans le même sens. Et si tu ne vas pas dans le même sens que tout le monde, très rapidement, tu vas être taxé de complotiste, tu vas être taxé d'hurluberlu, tu vas être par défaut rejeté du discours public, ce qui est inquiétant. Encore en France, ben, vous avez plusieurs émissions où ouvertement les partis opposés vont s'affronter et quand l'émission est finie, ben, on n'est pas le plus mauvais ami que ça. Là. On n'est pas d'accord, puis on l'exprime, puis c'est bien. Ici, on n'a pas cette culture-là. Alors, c'est malheureux pour le Québec. Aux États-Unis, ils l'ont un peu plus. Aux États-Unis, ils sont plus ouverts au débat. Pas autant qu'en France, mais beaucoup plus qu'au Québec, disons.
On est spécialiste pour râler et pour se mettre sur la gueule, surtout n'importe quoi. Fabrice, tu avais une question ?
Oh, le débat a quand même sérieusement pris du plomb dans l'aile en France. Hein. On est loin de l'époque de Ce soir ou jamais de Tadei qui passait tous les soirs sur Service public. Aujourd'hui, il faut vraiment creuser pour trouver du débat et ça s'est vraiment, vraiment tendu aussi. Michel, est-ce que tu crois, parce que ce problème Gemini a été finalement assez peu traité par la presse et moins encore le fait que ça impacte, au-delà de Gemini, ça impacte le moteur de recherche de Google. Et donc, il y a un biais effectivement clair, idéologique dans le moteur de recherche de Google. Est-ce que tu crois que c'est un momentum et qu'à partir de ce moment où les images qui ont un impact infiniment plus profond que n'importe quel discours, que n'importe quelle analyse, n'importe quelle étude, le fait de montrer aussi bien George Washington noir que des soldats nazis noirs, parce que la diversité est jusqu'au bout, va faire en sorte que tout d'un coup, beaucoup plus de gens vont réaliser qu'il y a un énorme problème et qu'on patauge dans une forme d'absurdité totale, que l'intelligence artificielle, finalement, n'a guère fait qu'ingérer de l'absurdité et recracher de l'absurdité. C'est garbage in, garbage out, et qu'il serait peut-être temps de se poser et de tempérer un peu ce qui est en train de nous arriver.
Malheureusement pas. Puis pourquoi? Parce que nous, on est des geeks. Nous, on est au courant de ça. Mais ce phénomène-là n'a pas été médiatisé tant que ça. Et la manière qui a été médiatisée, c'est qu'il y a eu un fuck-up, on met le couvert dessus, on va retravailler la machine, on va la ressortir. Donc, les médias ici n'ont pas semblé scandalisés outre mesure de cette bourde majeure-là. Et monsieur, madame, tout le monde, les gens de la rue, c'est quoi Gemini?
Oui, mais l'image, toutes les images qui sont sorties de Gemini, on a beau refermer le couvercle, il y en a suffisamment qui sont sorties pour potentiellement devenir un buzz phénoménal. C'est une usine à même hein, que nous a sorti Gemini en l'espace de finalement quelques semaines où ça a été opérationnel. Je pense vraiment à ce soldat nazi noir avec un grand sourire qui effectivement ressort tous les codes de l'imagerie nazie, du beau gosse fier de lui, droit, avec son casque et son insigne SS, si ce n'est qu'il est noir et que c'est parfaitement réaliste. Ça exprime tellement bien ce mécanisme poussé jusqu'à son ultime retranchement d'absurdité par une intelligence artificielle qui, bon an mal an, essaye de faire sens de tout ça, essaye d'être cohérente avec ce qu'on lui a appris de bien et de mal. Ça devrait pouvoir atteindre Madame Michu. Là, c'est nous, les professeurs du marketing Internet. Hein. C'est peut-être à nous de réfléchir à la façon d'utiliser ces images pour porter un message sur les dérives potentielles de l'intelligence artificielle.
Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que le citoyen moyen, il s'en fout, il n'est pas au courant. C'est scandaleux, c'est triste, parce que nos médias collaborent à étouffer l'affaire, tu sais. Alors, il n'y a pas eu, je ne sais pas chez vous en France, mais ici, il n'y a pas eu de débat, là. Il n'y a pas eu d'émission spéciale d'intelligence artificielle.
J'ai rien vu en France.
À part dans certains médias spécialisés, non, très, très peu. Effectivement, très peu.
Ouais, j'ai absolument rien vu en France.
Oui, Tech & Co, Numérama, mais ce sont des médias qui sont dédiés au numérique. C'est pas du grand public. Donc, c'est pas Le Parisien, c'est pas Le Monde, c'est pas des médias, on va dire, même grand public.
Et Radio-Canada, qui est la radio officielle et qui est très, 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 très woke, évidemment, n'a pas pesé sur le piton, n'a pas n'a pas été scandalisé de ça, hein, parce qu'évidemment, s'il était scandalisé de ça, il faudrait que tu sois scandalisé de ce qui vient avec et ils ne veulent pas changer. Donc, c'est troublant. Moi, je suis plus troublé de la non-couverture de cet événement que je trouve scandaleux et que je trouve très, très important, notamment en ce qui a trait à l'intelligence artificielle, que c'est comme s'il ne s'était rien passé. Puis évidemment, ben, les investisseurs, eux autres qui surveillent l'affaire, eux autres ont réagi de manière
assez clair que les marchés n'ont pas raté l'occasion. S'il y a une catégorie dans la société qui a parfaitement compris ce qui était en train de se passer, c'est bien les investisseurs. Et Google n'a pas fini de payer le prix fort pour ça. Parce
que Google... Alors justement, la question, finalement, ce que ça met en avant, c'est de manière, on va dire, très, très claire, des choses qu'on savait déjà, mais de manière un peu plus planquée, qui sont les biais des IA en général. Michel, tu disais tout à l'heure que tu étais revenu d'un congrès où tu as parlé de marketing et de contenu. Et tu as dit que tu avais été, je n'utiliserai pas le terme que tu as utilisé, je ne serais pas capable de le dire.
Flabbergasté.
Voilà. Flabbergasté. Parce que tu as vu quoi? Et justement, cette question de biais, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait venir de manière peut-être plus insidieuse impacter le marketing et plus globalement la création de contenu?
Tout à fait. Puis ça l'impacte déjà, qu'on le veuille ou non. Moi, ce qui m'a impressionné particulièrement, il y a, je pense que c'est InVideo ou NVIDIA.IA. C'est une application texte à vidéo qui vient de Mumbai. Et moi, ben, j'ai discuté avec un des fondateurs qui s'appelle Ankit, 36 ans, une personne brillante. Je me suis lié d'amitié avec lui et j'ai fait un test. Alors, sur le prompt, j'ai écrit « Qui est Michel Blanc ?» avec l'hyperlien sur mon blog. En 5 minutes, il avait lu plus de 2500 billets de mon blog et il a résumé dans une vidéo de 2 minutes 30 secondes ma vie professionnelle avec tous les thèmes que j'ai soulevés pendant près de 20 ans. D'une manière impeccable, en ajoutant des images générées qui correspondaient à ce qui était discuté dans le texte. J'étais extrêmement impressionné. Tu sais, quand même, ça fait de façon automatique, sans intervention humaine ou à peu près. C'est sûr que j'aurais pu bidouiller... Mais là, j'ai mis une ligne et une vidéo de 2 minutes 30 secondes qui est produit. Wow! Après ça, évidemment, on se rend compte que, par exemple, avec certaines intelligences artificielles, déjà, on peut, entre autres avec l'intelligence artificielle de Google, j'aurais pu planifier mon voyage et demander trouve-moi un hôtel, trouve-moi un vol le moins cher possible, le plus rapidement possible, le moins de avec différentes contraintes. Et tout mon trajet aurait été planifié par l'intelligence artificielle. La seule chose que ne fait pas encore Google, c'est de réserver à ma place. C'est une question de temps. C'est inquiétant parce que si tu es un hôtelier, comment tu vas faire pour être dans l'ensemble évoqué? Si tu es une compagnie aérienne, comment tu vas faire pour être dans l'ensemble évoqué? Comment tu vas faire pour optimiser ça pour que l'intelligence artificielle pense que c'est ton vol qu'on devrait prendre plutôt que le vol de quelqu'un d'autre? Alors, au niveau marketing, ça vient d'ouvrir une porte qu'on n'avait jamais encore ouverte et l'optimisation pour contrer l'algorithme. Évidemment, il y a du monde, tu sais, on parle déjà de référencement, l'art de se positionner dans les résultats de recherche, mais là, ça va être l'art de se positionner dans les résultats d'intelligence artificielle. Wow! Tu sais, gros...
oui, ça ouvre un nouveau chapitre, hein. C'est clair que pour le marketing, ça va être...
Et même dans l'intelligence artificielle, moi, je fais des tests pour certains de mes clients. Et puis, bon, j'ai mes clients qui sont dans le secteur de l'automobile de luxe. Et là, j'ai demandé, évidemment, quels sont les meilleurs sujets que je pourrais utiliser pour faire un blog. Après ça, quels sont les sujets que je pourrais utiliser sans parler des voitures pour rendre le blog intéressant. Après ça, quels sont les sujets litigieux que les gens de l'industrie automobile n'aiment pas parler, qui font polémique, mais qui feraient réagir grandement des contenus que je mettrais en ligne? Là, ça te sort des listes et des listes. Et c'est extrêmement impressionnant et extrêmement pertinent ce qui sort. Puis j'ai un des grands spécialistes justement de marketing de contenu qui était là. J'ai dit marketing de contenu, j'ai dit c'est du contenu dupliqué et Google pénalise fortement le contenu dupliqué. J'ai dit pensez-vous que c'est intelligent de mettre des contenus d'intelligence artificielle en ligne? Il dit écoutez, si on parle de moteur turbo 3,25 litres, à un moment donné, il n'y a pas 200 000 manières d'en parler. Puis si vous en parlez encore avec l'intelligence artificielle, ben, ça va être une manière de plus. Et la manière que vous allez faire le prompt va déjà changer la nature du contenu qui va être là. Puis dans tous les cas, on ne suggère pas de prendre ces contenus-là pour les mettre en ligne, mais évidemment, on peut s'en inspirer pour les transformer et rajouter justement de l'humain, rajouter du vivant, rajouter... du personnel. Mais quand même, c'est des. Même que, tu sais, écoute, tu peux mettre un site web et dire comment optimiser pour augmenter la conversion dans l'intelligence artificielle, il va te sortir les points. Moi, je suis en train d'enseigner ça à mes étudiants et là, je me rends compte que bientôt, cet enseignement-là va être complètement inutile. Déjà, j'ai été obligé de changer mes examens parce que certaines questions de mes examens, si tu l'as. Tu sais, par exemple, quelle est la différence entre la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte? Mentionne l'intelligence artificielle, la réponse va être impeccable. Donc, je ne peux plus demander ça à mes étudiants. Alors, j'ai été obligé de leur demander des questions comme, par exemple, donnez-moi deux exemples de ce que vous pourriez faire avec la réalité augmentée afin d'augmenter les ventes intercontinentales. Alors là, ça commence à être un peu plus compliqué. Et donne-moi des exemples manufacturiers. Là, déjà, l'intelligence artificielle va être peut-être moins apte à répondre à ce type de questions-là. Donc, c'est troublant. C'est troublant. Puis, ce qui est intéressant, un des spécialistes, justement, il disait que pour l'enseignement, les questions, il va falloir qu'on demande éventuellement, puis qu'on montre aux étudiants comment travailler avec l'intelligence artificielle. La question, ce ne sera plus qu'est-ce que l'intelligence artificielle te donne comme réponse, mais plutôt. Quelle est la question exacte que tu as posée à l'intelligence artificielle? Alors, tu vas être évalué sur le questionnement plutôt que sur les réponses.
Oui.
C'est intéressant.
Se faire évaluer sur le prompt qu'il faudra,
ben oui.
Qu'il faudra écrire, effectivement, c'est assez juste. Est-ce que tu crois, Michel, qu'il puisse y avoir un impact de l'IA sur la question culturelle? Je m'explique. Et là, je fais exprès de poser cette question-là parce qu'on sait que, notamment au Québec, la question de l'identité est quelque chose de très fort, au travers de la langue d'ailleurs. Vous faites, je ne sais pas si vous nous faites la gentillesse, l'amitié ou le bonheur de continuer à parler le français, mais c'est un vrai plaisir. Et de voir notamment la bataille que vous menez pour la défense de cette langue versus l'anglais. Mais très souvent, on entend le fait que, justement, les algorithmes d'apprentissage des IA sont très souvent, on va dire, culturo-centrés, on va dire ça comme ça. On a parlé tout à l'heure avec Gemini et le wokisme. On pourrait aussi parler le fait qu'une IA développée à San Francisco ne va pas forcément être de la même manière nourrie que si elle est développée à Mumbai ou si elle est développée à Beijing. Donc, voilà, à Pékin. Je ne suis pas venu dire Beijing, s'il te plaît. Oui. Donc, par conséquent, est-ce que tu penses que toi, ça peut avoir un impact lorsqu'on est dans ces questionnements-là, et typiquement, le Québec, on est y est.
Définitivement, parce que évidemment, l'intelligence artificielle, l'intelligence générative, c'est les grands ensembles. Hein? Alors, c'est les grands ensembles qui sont gagnants, c'est les petits ensembles qui sont perdants. Déjà, quand on parle du français, ben, ça va être le français de France plutôt que le français international ou le français québécois ou le français africain qui va avoir sa place. Flabbergasté, que je vous ai utilisé, qui est une expression qui veut dire étonné, très répandue au Québec et peu répandue en France. D'ailleurs, quand j'allais... à la fameuse conférence Le Web à Paris. J'aimais taquiner les copains français sur vos expressions et vous aimez beaucoup les anglicistes qu'on aime un peu moins au Québec.
Y compris des anglicismes qui n'ont strictement aucun sens en anglais. Hein, mais oui, effectivement.
C'est quand même moi, pneus sanitaires, matelas sanitaires, il y avait des sanitaires partout. Voyons, vous ne connaissez pas l'expression centre. Et quand je suis allé... quand je suis allé au Novotel, que j'ai demandé comment on fait un appel à frais virés. La fille, elle me fait répondre. Elle me fait répéter. Comment on fait un appel à frais virés? Elle dit, je ne comprends pas. Elle dit, je dis, comment on fait pour téléphoner à quelqu'un et que c'est cette autre personne qui paye la connexion? Ah, oh, vous voulez dire un collect call? Excusez-moi. Je n'avais pas le bon mot. Et n'oubliez pas d'aller au fitness center au troisième étage. Dans l'intelligence artificielle, ça va aussi apparaître, ça va aussi transparaître, ça va aussi... ça va être troublant pour les minorités linguistiques, ça l'est déjà.
Michel, pour finir, aujourd'hui, toi, tu le disais, c'est quoi pour toi, notamment, donc, vu de ton côté au Québec, les révolutions, ou tout au moins les usages qui vont être les plus prégnants, les plus surprenants? Tu parlais d'éducation, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de contenu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois qui ne sont peut-être pas encore arrivées chez nous, en Europe et particulièrement en France, des choses qui te paraissent être secouées, bouleversées par l'arrivée de l'IA?
Tous les travailleurs du savoir, ça c'est la première chose. De toute évidence, là, tous les travailleurs du savoir vont être impactés. Il faut quand même comprendre que l'IA, en médecine, l'IA est déjà capable de déceler des cancers que l'œil a de la difficulté à voir, etc. Puis oui, c'est inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant? L'IA a déjà modélisé toutes les molécules connues par l'homme, ce que l'homme n'avait jamais fait. Alors, l'IA a réussi à modéliser l'ensemble de la connaissance des molécules. Et avec cet ensemble-là, évidemment, on pourrait s'en servir pour développer des nouveaux médicaments. On pourrait aussi s'en servir pour développer des nouveaux poisons. Tout outil, comme le web d'ailleurs, ça peut servir autant le bien que le mal. Ce n'est pas l'outil qui est responsable, c'est toujours l'usager qui est responsable. Et qui fait des conneries. Alors, l'IA, ça n'a pas de sentiment, ça n'a pas d'intention. Puis en même temps, c'est une course qu'on ne peut pas arrêter. Pourquoi? Parce que, et les Chinois et les Russes font, à peu près tout ce qui existe de pays avancés technologiquement continue à toute vitesse les avances technologiques. Donc, on ne peut pas arrêter. Maintenant, comment on va contrôler, comment on va minimiser les nuisances? C'est ça la grande question. Et le même problème qu'on avait avec le web, on va l'avoir avec l'IA. Et c'est quoi le problème? C'est que ce sont des problèmes transnationaux qu'on essaie de régler à l'intérieur de nos frontières, alors que le problème traverse allègrement les frontières. Alors, moi, j'avais déjà, parce que quand j'ai fait ma formation... à la maîtrise en commerce électronique, on avait aussi des cours de droit, des technologies, et j'avais fait un travail sur le droit des TI, et je disais, j'avançais l'hypothèse qu'on devait faire comme on a fait pour les océans, pour l'Antarctique et les corps astrales, et faire un droit spécial pour le web, étant donné que le web étant transnational, on devrait avoir un droit transnational, et que l'ONU s'accapare de ce sujet-là et essaie de réunir le monde autour d'une manière de réguler le web. On devrait faire ça pour l'intelligence artificielle. Malheureusement, je ne suis pas très, très optimiste quant à la possibilité que ça se fasse. Et un des écueils, évidemment, c'est que ça va toucher l'humanité entière, mais ce n'est pas l'humanité entière qui va avoir la possibilité de réguler, de coordonner et de limiter les effets négatifs de ces technologies-là. Et même si un pays réussit à le faire dans son pays, inévitablement, ça traverse les frontières. Donc, ça devient un peu inutile.
Justement, Tu le sais certainement, en Europe, on a mis en place un IA Act. Donc, en gros, on veut mettre en place des règles. Vu du Canada, du Québec, du Canada et plus globalement des États-Unis, mais on va dire Québec-Canada, cette question de la régulation des IA, c'est quelque chose qui paraît complètement lunaire ou ça se laisse écouter. On se dit pourquoi pas?
Ben écoute, si je mets mon chapeau optimiste, je vais dire, ben oui, pourquoi pas, go, allons-y.
Mais est-ce que les politiques en parlent ou tout le monde s'en fout?
Oh oui, on en parle. Puis évidemment, comme on a des centres internationaux et on a des tops mondiaux qui sont spécifiquement à Montréal, au Québec, on en discute et ils sont très inquiets. Ils se heurtent à ce que je viens de vous énoncer. On a beau faire des règlements ici, les Russes, ils s'en foutent de nos règlements, les Chinois aussi, et les autres pays, la même chose. S'il n'y a pas de régulation transnationale, on se tire dans le pied parce qu'on se ralentit alors que les autres avancent. Et que de toute évidence, même si nous, on est très, très, très éthique, ça ne veut pas dire que les autres le seraient. Tu sais, c'est le même problème que l'arme nucléaire. Là, tu sais, je veux dire, l'arme nucléaire, tu sais, on a essayé de contrôler ça. On n'a pas réussi, là, tu sais. Puis l'intelligence artificielle et le web, c'est le même type de problème. Ce sont des problèmes transnationaux qu'on essaie de régler au niveau régional et ça ne marche pas. Donc, c'est pas joyeux. Puis entre vous et moi, t'sais, on parle des changements climatiques, puis il y en a qui dorment pas à cause des changements climatiques. Puis là, on va parler de l'IA, puis ils dormiront pas à cause des dangers de l'IA. Moi, je suis pas mal plus inquiète de la possibilité d'une troisième guerre mondiale qui semble arriver à grands pas que de qu'est-ce qui va arriver de l'IA ou des changements climatiques. Là. Ça, moi, ça m'empêche de dormir. Bon, mais on a tous nos paranoïas, puis on a tous nos visions des dangers. Qui cible l'humanité. Ils sont nombreux. Maintenant, comment les grader, comment les mettre en ordre, lequel est le plus inquiétant que l'autre, ben, ça dépend à qui tu parles, hein, évidemment. On est en même temps, on va tous mourir un jour, quoi qu'il advienne, on va tous mourir, idéalement le plus tard possible. Idéalement, le plus sereinement possible, mais bon.
C'est ce que disait Keynes en réponse au néoclassique. Il disait qu'à terme, on sera tous morts. Donc, effectivement, oui, à terme, on sera effectivement tous morts. Fabrice, tu as une dernière question, réaction peut-être?
Est-ce que, parce que pour l'instant, l'impact de l'IA dans le monde, elle est essentiellement américaine. Quand je dis américaine, c'est États-Unis.
Et canadienne. Ouais. Et canadienne. Oh là là, quand même, on est fort, on est non, fort.
Il y a des bons au Canada, nous-mêmes en France, on a des gens très forts en IA, mais toujours est-il que à ce stade, les gens qui déploient des outils qui sont en train, dès à présent, de commencer à changer et la vision du grand public sur l'IA, on parle des IA génératives, et la pratique d'énormément de travailleurs du savoir partout sur la planète, pour l'instant, c'est des IA américaines. Et quelque part, c'est un énorme soft power américain qui est en train de se déployer. Alors, Gemini a été une occasion de rater pour alerter le plus grand nombre que ces IA ne sont pas neutres, qu'elles contiennent des biais politiques et que c'est une façon de coloniser notre espace de réflexion qui provient de, c'est même pas des États-Unis, c'est de San Francisco. Est-ce que tu penses qu'il va falloir attendre que les Chinois débarquent avec leur propre IA pour qu'on commence à s'en inquiéter, un peu comme on a commencé à s'inquiéter des réseaux sociaux de façon très sérieuse avec TikTok, en tout cas en France, et même aux États-Unis. Ou est-ce qu'il va y avoir un autre événement du type le dérapage de Gemini qui va donner l'occasion au monde de prendre conscience de cette puissance, de cette capacité de propagande qui est offerte par l'IA?
C'est une bonne question, puis c'est sûr que si on se fie à ce qui s'est passé au niveau historique, très probablement que, pareil comme pour les médias sociaux, il y avait des... Tu sais, moi, je dis dans mes cours que les médias sociaux sont nichés sociodémographiquement, mais aussi géographiquement et aussi au niveau des fonctionnalités. On risque d'avoir le même type de développement pour l'intelligence artificielle. Alors oui, il va y avoir des intelligences artificielles chinoises, russes, américaines et autres, qui vont déjà être nichés géographiquement. Il y en a qui vont traverser les frontières. Et déjà, les IA sont aussi nichés au niveau fonctionnel. Alors, ça risque d'être le même type de développement que je vois pour l'IA. Maintenant, c'est certain qu'il va continuer. Tu sais, Gemini, là, c'est la première bourde majeure dont on a pris conscience de manière non équivoque. Il va y en avoir d'autres. Et là, pour l'instant, c'est somme toute pas très dangereux. Les prochaines pourraient l'être. Mais ça, moi, je ne vois pas le futur. Je vois le passé, puis je vois le présent. Puis si je me fie au passé, ça devrait se développer un peu comme le web s'est développé. Et justement, comme le web s'est développé, moi, je suis vieille, hein, je me souviens des premiers ordi. Puis on dit, ah, les médias sociaux, ça fait pas longtemps. Les médias sociaux, ça fait quand même 30 ans. Là, les années 95, il y avait des forums. Les médias sociaux, on appelait ça les e-communautés. Avant Facebook, il y avait MySpace. Puis avant MySpace, il y avait Friendster. Puis avant Friendster, il y avait ICQ. Puis c'est pas nouveau. Mais évidemment, à un certain moment donné, il y a comme un basculement. Et la population en général, ça devient assez facile que tout le monde peut utiliser et utilise ces outils-là, comme c'est arrivé avec les médias sociaux. Donc, sauf que ça risque d'arriver beaucoup plus rapidement avec l'intelligence artificielle. Oui, il va y avoir des dérapages extrêmement troublants. Et les dérapages, est-ce qu'ils vont venir des États-Unis, de la Chine, de la Russie ou de la France ou du Canada, bon, on verra bien. Mais oui, il va y avoir d'autres dérapages. Et oui, l'adoption va se faire progressivement, comme ça s'est fait pour le web. Mais une fois que toute la société est embarquée là-dedans, là, oh que boy, oh que ça va... Ça va être quelque chose. Hein. On va observer, hein, puis... On va pleurer, puis on va lever les bras, puis les médias feront bien qu'est-ce qu'ils font comme d'habitude, c'est-à-dire ils vont nier. Ou ils vont inviter ceux qui pensent comme eux et qui disent que tout est beau dans le meilleur des mondes. On verra.
Ou ils auront été très largement remplacés par des IA d'ici là, parce que ça peut aller très vite.
Ou ils seront remplacés par Twitter, qui est déjà... peut-être le média le plus utilisé de la planète et qui n'est pas un média. On l'a vu avec Tucker Carlson, là, si vous regardez les centaines de millions qui ont écouté son entrevue avec Poutine. Ça ne fait pas l'affaire des médias. Pourtant, c'est un job journalistique qui a...
C'est vrai que c'est impressionnant, une telle audience qui est tout à fait comparable au plus gros network... d'infos.
Non, monde. C'est pas comparable. C'est pas comparable, c'est 10 fois plus.
C'est même supérieur.
Au-delà de 100 millions de vues en une couple de jours, il n'y a pas un média sur la planète qui a fait ça, là. Aucun.
C'est vrai que c'est complètement dingue. D'un point de vue médiatique, c'est complètement dingue.
Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on en reparlera finalement, puisque aujourd'hui, on se dit, on a un peu une vision relativement claire de vers où ça peut aller. On attend de voir s'il y a un prochain dérapage ou autre de ces fameuses IA, ou voir comment ils vont arriver à les contrôler, si on peut dire, les border, c'est plutôt ça le terme, border. Malheureusement, plus ils les bordent, quand je dis ils, c'est les concepteurs, et plus ces IA très souvent perdent de leur efficacité. Donc il y a un paradoxe, il va falloir régler et trouver une ligne de crête sur cet usage. Donc je propose qu'on se reparle prochainement avec Michel pour voir un peu comment les choses évoluent. Tous les cas de figure, Michel. Merci de ton temps plutôt.
Merci beaucoup, Michel.
En conclusion, pour finir sur les médias, il y a déjà médias chinois dont toutes les nouvelles sont écrites par l'intelligence artificielle et où l'annonceur est une intelligence artificielle. Mm-hmm. Alors, ça existe déjà. Tu as déjà un média là, entièrement conçu, images, sons et textes par l'intelligence artificielle. On est rendu là. Alors, avant que ça se répande, on va voir combien de temps que ça prend, là, mais... Alors, c'était un grand plaisir de vous parler. Et suggestion pour la prochaine fois, ce serait bien qu'on ait la vidéo.
De la vidéo la prochaine fois.
Ce qu'on fera, Michel, c'est qu'effectivement, on va tester plusieurs choses cette année dans les éclaireurs du numérique. On fait des lives aussi sur X. Et puis, tu as raison, on essaiera de faire quelques vidéos de temps en temps. Ça peut être sympa d'avoir le son et l'image. Cette fois-ci, ce sera le son. Et pour l'image, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Écoute, sur ce, chez toi, c'est la fin d'après-midi. Chez nous, c'est le milieu de la nuit. Il ne neige pas chez nous, mais chez toi, oui. Donc, on va te laisser avec ces magnifiques visions de contrées blanches que tu as chez toi. Et chez nous, on va retourner vers la pluie. Merci encore, Michel, de ton temps et de tous tes conseils et avis avisés. Et on se retrouve très, très vite sur un prochain épisode des Éclaireurs du Numérique avec Bertrand Lenôtre. Salut.
Salut, à bientôt. Plaisir.
Les Éclaireurs du Numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Douany et Fabrice Épelboin. Vous avez aimé ce podcast ? Retrouvez-nous sur leséclaireursdunumérique.fr.